Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Je rejoins mes collègues, comme à tous les jours, Julia Pagé, Rémi Villemur. Bonjour.
Bonjour.
Écoutez, premier sujet qu'on aborde aujourd'hui, puis on dirait, moi, j'ai une espèce d'air de déjà-vu, comme il dirait en français et en anglais, d'un article qui est revenu dans la CBC, qui parle entre autres de travailleurs de l'industrie du jeu vidéo anglophone qui pourraient, eux, quitter ou qui pensent à quitter si lorsque la loi 96 entrera en vigueur ici au Québec, lorsqu'elle sera appliquée là, totalement dans tous les milieux de travail, qui craignent, là, parce que c'est un milieu éminemment anglophone, là, le jeu vidéo, ne nous cachons pas, et c'est très présent à Montréal, qui pensent partir ici, là lorsque tout sera appliqué. Est-ce que, Rémi, je te lance en premier, est-ce que tu vois un peu le même retour de l'épouvantail du référendum, là, lorsqu'on disait les entreprises vont quitter si on doit parler français ici, tout le monde va partir, tout le monde va quitter, le milieu du travail va partir. Est-ce que tu revois un peu ça ici?
Ben, c'est normal que tu vois que tu as un sentiment déjà vu, c'est parce que tu connais ton histoire, tout simplement. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'avantage de connaître son histoire. C'est parfois, on lit les journaux, puis on reconnaît des conjonctures qui se sont déjà produites par le passé. Puis, en effet, on avait entendu parler de ça, la menace de la fuite des capitaux en marge des deux référendums, mais on avait aussi entendu parler de ça dès les années 60. Là, je me rappelle, pour avoir lu là-dessus suffisamment quand même, que Paul Desmarais avait menacé Daniel Johnson à la fin des années 60 que les capitaux s'en iraient vers l'Ontario. Puis Daniel Johnson avait reculé sur l'idée de commencer à mousser un peu l'idée d'indépendance. Puis c'était de la foutaise, en fait. Jacques Parizeau avait confirmé dans les mois qui avaient suivi qu'il n'y avait eu aucune transaction irrégulière à la Caisse de dépôt pendant que Johnson réfléchissait oui ou non s'il reculait. En 70, la plus grande menace de fuite des capitaux, c'est 1970, c'est le coup de la Brinks, deux jours avant l'élection. Les fédéraux qui craignent l'arrivée au pouvoir de René Lévesque, c'est encore une fois une mise en scène, Bourassa prend le pouvoir. C'est toujours la même chose. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Puis aujourd'hui, deux référendums plus tard, une loi 101 plus tard et une timide loi 96 plus tard, le Québec est la deuxième province la plus riche du pays. On est plus riche que la majorité des nations au monde. On innove, on invente, on exporte, même s'il y a des gens qui ont peur de nous voir devenir plus grands qu'on l'est déjà. Ça va bien aller, comme disait François Legault.
Ça va bien aller. Julia, t'as ton avis là-dessus? Parce qu'est-ce que dans les entreprises, là, il y a eu beaucoup de désinformation, premièrement dans le Canada anglais, là, par rapport à la loi 96, comme quoi il y aurait une Gestapo de la langue qui se promènerait et tout. Y a-tu quand même un fondement? Y a-tu lieu d'être inquiet, tu penses, de dans les milieux de travail anglophones de cette loi-là?
Bon, premièrement, des années 60 à aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez formidable, la mondialisation. Porosité totale des frontières, l'isolationnisme, dis-je, est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficile. On est en contact avec le monde, le milieu du travail est en contact avec le monde. Après, est-ce que ça veut dire que tout le monde va partir à cause de la loi 96? Non, je pense pas. Évidemment, à ce niveau-là, l'histoire se répète un peu. Par contre, moi, j'ai un peu de difficulté avec le fait que la protection de la langue soit faite parfois aux dépens de notre prospérité économique et aux dépens de notre ouverture et de notre capacité d'accueil et de notre qualité d'accueil des immigrants. Mmh. Parce que la loi 96 désavantage l'économie, pas juste au niveau des secteurs de la technologie, des jeux vidéo qui sont, soit dit en passant, des secteurs d'avenir. Là, donc, ça va se jouer beaucoup à long terme aussi.
Oui.
On est aussi dans une période de pénurie de main-d'œuvre majeure et face à la pénurie de main-d'œuvre, on va rendre la tâche plus difficile pour les immigrants de venir travailler au Québec. Pour moi, ça, c'est complètement incongru. Et le gouvernement Legault sait pertinemment que c'est impossible d'apprendre le français en 6 mois. On n'a pas besoin de rapport d'expert pour nous le dire. Tous ceux qui ont essayé d'apprendre une langue vont pouvoir vous le dire eux aussi. Moi, j'apprends l'italien depuis 3 ans, puis je peux à peine commander un café. Ça me demande beaucoup. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va dissuader les immigrants de venir s'installer ici. Et on va précariser la vie de ceux qui décident quand même de venir et qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité. Je pense à des amis qui ont des parents qui viennent du Vietnam, de la Corée. Leurs parents ont pris le temps de s'installer. Maintenant, ils sont partie de la société québécoise. Leurs enfants parlent français. Et s'ils avaient seulement eu 6 mois pour parler français, je pense pas que leur situation économique et sociale serait la même aujourd'hui.
Trouves-tu qu'on fait trop la fine bouche, toi, Rémi, là, devant nos justement pénurie de main-d'œuvre, en famine, comme ça on décide de faire la fine bouche puis de trier dans notre assiette là, qui s'en vient?
Je pense pas qu'on fasse la fine bouche. Ultimement, il faudrait que l'immigration soit francophone. En ce moment, le problème qu'on a avec l'immigration, c'est qu'on a des taux. L'année passée, c'est 70 000 immigrants au Québec, 46 000 qui s'installent à Montréal. Et vous avez à peu près la moitié des allophones qui font des substitutions linguistiques vers l'anglais. Donc, le français ne peut pas survivre avec la moitié des allophones qui choisissent de vivre en anglais plutôt que de vivre en français, alors que la communauté anglophone, c'est 8,28 %, là, je pense, au dernier recensement. Donc, il faut une immigration francophone. Si la loi 96 affecte l'industrie du jeu vidéo à Montréal, ben il arrivera ce qui est arrivé en 76, c'est-à-dire qu'il y a plein de CHSO qui sont partis, mais on a changé notre économie, on l'a tournée vers quelque chose d'autre. Puis dans les années 70, l'industrie manufacturière au Québec, elle était la plus vivante au Canada, plus vivante même qu'en Ontario. Donc faut pas avoir peur à chaque fois de ça. On va s'arranger, on va s'organiser. On est des gens inventifs, on est des innovateurs. On va y arriver.
On va y arriver. Ça va bien aller. Tu l'as dit une première fois, tu l'as dit une deuxième fois. Ce que je retiens aussi de cela, Julia, c'est que un jour, avant la fin de la saison, il va falloir que tu nous parles italien ici à l'émission. T'as ouvert une porte qui ne peut pas être refermée. Un autre sujet, je voulais vraiment aborder avec vous parce que on baigne, nous trois, tout comme plusieurs de nos collègues, là, dans l'actualité, l'information constante. Un bombardement là sans cesse de nouvelles, pour la plupart, malheureusement, mauvaises. Hein, là, ça fait, on faisait des blagues un peu sombres là, au bureau, je m'en souviendrai ici avec mes collègues recherchistes, journalistes et autres, comme quoi, oh, on a fini une pandémie, 2 ans à parler de pandémie, de maladie, de pandémie, de décès et autres, et là, oh, une guerre en Ukraine pour prendre le relais jusqu'à on commençait à s'ennuyer. Je fais de l'ironie, mais vraiment, c'est difficile sur le moral. Et il est sorti un rapport de l'Institut Reuters de l'Université d'Oxford qui parle d'un phénomène qui, eux, appellent l'évitement médiatique ciblé. C'est-à-dire des gens qui commencent à cesser de s'informer sur certains sujets parce qu'ils commencent à trouver ça trop lourd. Est-ce que vous faites ça, vous, un peu d'évitement comme ça, d'évitement médiatique ciblé?
Personnellement, oui. J'ai pas honte d'en parler. Moi, durant la pandémie, à un moment donné, il a fallu que je décroche. J'ai pas été capable de le faire très très longtemps parce que j'ai eu peur de devenir fou. Alors, je me suis raccroché. Mais je pense que on peut décrocher de l'actualité si c'est fait avec intelligence. C'est-à-dire que si on refuse on arrête d'essayer de comprendre le monde. Ben là, je pense qu'on emprunte une voie qui est dangereuse. Mais si on décide, par exemple, pendant 2 semaines, qu'on regarde plus l'actualité, mais qu'on continue d'essayer de comprendre le monde dans les livres, par exemple, dans la littérature, dans les arts, dans la musique, dans le cinéma, ben là, on va trouver certaines réponses qu'on trouve peut-être pas dans l'actualité. Parce que l'actualité, c'est pas de la faute des médias, mais souvent ça ressemble, en tout cas durant la pandémie, ça ressemblait beaucoup à ça, puis ça ressemble beaucoup à ça en ce moment pendant la guerre. C'est une comptabilité des morts, une comptabilité des cas. C'est très froid, c'est très synthétique. Mais dans les arts, on trouve autre chose. On trouve des émotions, par exemple. On trouve des rapports entre les humains. Donc moi, je pense que c'est possible de décrocher, mais il faut le faire de façon intelligente. Il faut que ça soit un décrochage stratégique.
Ouais, et puis il y a de l'art qui se raccroche, comme tu dis, à l'actualité. On peut comprendre l'actualité au travers de la musique, beaucoup, le rap, entre autres. Là, c'est un des premiers styles qui me vient à l'idée. Il y a des études même qui prouvent que quand on est bombardé de mauvaises nouvelles constamment, ça peut nous donner des symptômes qui ressemblent à un choc post-traumatique. C'est quand même, ça peut devenir quand même intense. Julia, toi, as-tu des trucs pour quand tu veux décrocher et te nettoyer l'esprit de toutes ces mauvaises nouvelles?
Mon Dieu, Rémi, je suis on ne peut plus d'accord. Moi, l'art m'a complètement sauvé. C'est tellement prétentieux de dire ça. L'art m'a sauvé pendant la pandémie. Mais c'est vrai, j'ai lu des livres qui m'ont permis de digérer l'actualité, de prendre le temps parce que l'actualité va tellement, tellement vite. Je pense que c'est un des remèdes les plus efficaces. Par contre, moi, c'est comme précisément mon domaine d'étude, là. Il y a un paradoxe assez étonnant. C'est qu'on est attiré par les mauvaises nouvelles et c'est un fait psychologique. Donc, on est plus porté, malgré nous, à cliquer sur des articles qui relatent des catastrophes, des scandales, des morts. Et les médias et les journalistes intériorisent l'idée que ce genre d'articles fonctionne, génère des clics, suscite l'intérêt. Et donc, en produisent plus et les mettent de l'avant. Et donc, les gens cliquent plus et la roue tourne. C'est comme impossible de s'en sortir. On est comme attiré. C'est comme presque une addiction, hein. Il y a beaucoup d'articles qui relatent ça. Il y a quelque chose d'un comportement addictif. C'est comme une cigarette, un verre d'alcool. On sait que c'est pas bon, mais on peut pas s'empêcher de le consommer.
Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être un modèle. Oui, c'est sûr, ça fonctionne. Puis les malheureusement là, on aura une autre discussion là-dessus. Mais les médias n'ont pas le choix aussi de se raccrocher là à défaut de d'avoir du financement adéquat en se faisant vampiriser par les GAFA, hein, les grands de ce monde qui viennent vampiriser les profits des médias. Doivent se raccrocher pour avoir des clics. C'est un des problèmes là, de l'espace médiatique. On y reviendra là, là-dessus assurément parce que ça mérite son propre sujet. Mais il y a des trucs hein, pour pouvoir décrocher de l'actualité. Pour chaque mauvaise nouvelle, il y en a une bonne dans le monde. Il y a des bonnes nouvelles, même si elles sont pas aussi apparentes, même si parfois il faut creuser, il faut chercher. J'en profite pour rendre un hommage. Il y a un média québécois pour lequel j'ai brièvement travaillé, fait un stage lorsque j'étais à l'école, qui s'appelle 1.5 Média, qui eux rapportent juste des nouvelles environnementales. Mais que des bonnes nouvelles environnementales et que du progrès environnemental. Et ça, pour moi, c'est tellement le genre de nouvelles qui font du bien, qui sont nécessaires de ramener, parce que souvent, on a de la misère à les trouver. Je pense que c'est un créneau qui aurait avantage à se développer un peu partout, d'avoir des bonnes nouvelles, d'en donner un peu plus aux gens, parce que lorsque c'est bien amené, je suis convaincu que ça peut, en ce moment surtout, aider et se faire cliquer un peu plus par les gens qui en ont bien besoin. Rémi, Julia, on poursuivra notre réflexion demain sur d'autres enjeux. Merci d'avoir été là. À demain.
Merci. À demain.